Radio.
Dutrisac, un animateur pas comme les autres.
Cube Radio.
Alain Pronkin est avec nous pour parler de religion. Monsieur Pronkin, bonjour.
Bonjour Benoît.
Allons-y donc tout de suite au toast parce que t'as beaucoup de nouvelles. D'abord, les lieux de culte, là, ça vient de changer encore à cause de la couleur de la zone.
Oui, c'est ça. Donc là, on sait qu'on est à 250 personnes par église et là, ça vient d'être ramené à 25 personnes. Donc, dans toutes les zones rouges, je veux dire Montréal, Québec, Trois-Rivières, je ne suis pas certain, mais dans plusieurs des zones, Laval, la Rive-Sud, c'est 25 personnes. Toutefois, dans les zones oranges, je pense que c'est l'Estrie, là, on peut aller à 100 personnes dans les églises, sauf si c'est des funérailles. Là, c'est 25. Parce qu'on a toujours peur dans les funérailles, parce que les gens se regroupent avant, puis après, puis tout le monde est collé, ce qui est tout à fait normal, et on a laissé ça à 25 personnes. Donc là, on avise, c'est rendu 25, que ce soit une synagogue, que ce soit une mosquée, que ce soit une église.
Priez chez vous, ça va être plus simple, moins dangereux.
Et en plus, aujourd'hui, débute le Ramadan chez les musulmans, qui est où on se rencontre, évidemment, tous les soirs au coucher du soleil. Et là, dans les mosquées, ça va être la même chose. 25 maximum.
Parfait.
Toute la région. On a réglé ça.
C'est bon. Le théologien suisse Hans Kuhn, qui était ton meilleur, là, qui est ta référence dans la vie.
Oui, et que j'avais déjà rencontré. Eh bien, il est décédé. Le 6 avril, à l'âge de 93 ans, je pense qu'il faisait aussi, il y avait un Parkinson, mais quand même 93 ans, c'était quelqu'un qui avait été interdit d'enseigner par le Vatican en 1979 sous Jean-Paul II. Et Jean-Paul II, lui et Jean-Paul II, je pense, tu peux pas les inviter au même party de Noël. Hans Kuhn, il faut le rappeler, c'est un prêtre. Et lui, il a dit qu'il était favorable au mariage des prêtres, à l'ordination des femmes, à la contraception, à la théologie de la libération, pour l'aide médicale à mourir. Pour un prêtre, c'est quelque chose.
Ah oui.
Et lui, il était en faveur de ça. Et quand on l'a interdit d'enseignement, ben lui, à l'université, ils ont dit, ben écoutez, on va t'arranger ça, mon Hans. On va créer un département d'écuménisme, puis là, tu peux enseigner. Et il a enseigné pareil jusqu'en 1996. Et ce qu'il avait dit quand je l'avais rencontré, c'est en 2007 à Montréal. Et tout le monde lui parlait de son fameux procès en 79. Ben, il dit, c'est facile, parce qu'il dit, tu sais, la fameuse, moi, je l'appelle toujours la congrégation de l'Inquisition, qui est la congrégation de la doctrine de la foi. Il dit, quand il t'appelle pour y aller, tu y vas pas, c'est tout. Parce que tu sais que tu vas perdre. Quand c'était fait, il parlait comme ça. Puis je l'ai même cité dans mon premier livre, et je veux juste rappeler toujours ça. Il était contre les mauvais sermons, la liturgie boiteuse, la piété aliénée, les traditions vides d'esprit, la dogmatique autoritaire qui est figée dans perfection, la morale détachée de la vie et noyée dans la casuistique, contre l'opportunisme et l'intolérance, le légalisme, et etc., etc. Il était vraiment très contestataire, mais il était admiré parce que quand Benoît XVI a été élu, il a appelé Kuhn pour le rencontrer. Mmh. Et en plus, puis ils se sont rencontrés au Vatican, et en plus, mais là, ce fois-là, Kuhn est allé. Et le pape François, quand il a été élu, a continué de faire de la correspondance avec Kuhn. C'est vraiment une figure importante de l'Église là, qui disparaît. C'est quelqu'un. C'est vraiment quelqu'un.
Un groupe de religieux catholiques en Haïti qui ont été enlevés.
Oui, et on se souvient qu'au moment de la messe de Pâques, à Rome, à la bénédiction Urbi et Orbi, le pape, il a parlé d'abord d'Haïti. Moi, j'ai dit, pourquoi il parle d'Haïti? Ben, je pense qu'on vient de le savoir. Ils ont kidnappé 5 prêtres et des religieuses françaises. Il y en a 7 au total, des religieux, des religieuses, des prêtres, et 3 laïcs aussi. Ils ont kidnappé 10 catholiques ce dimanche à Port-au-Prince, et ils exigent, le groupe qui les a kidnappés, 1 million de rançons. Il s'agit de voir, le Vatican à date ne fait évidemment aucun commentaire, et on va voir qu'est-ce qui va arriver. Et on sait que récemment, on a kidnappé des protestants, on a kidnappé d'autres gens de religieux de d'autres congrégations.
Confession.
Mais, confession, et ça a toujours été réglé. Mais là, on va voir, c'est 1 million, et c'est majeur, c'est 10 personnes kidnappées pour une rançon. C'est quand même très important.
Alors, en France?
Oui, en France, on a toujours des débats sur la laïcité. C'est un débat qui est quand même assez permanent. Et là, on veut regarder comment est-ce qu'on va faire la fameuse séparation entre l'Église et l'État. Et là, on est dans les sports. Et là, le Sénat est intervenu et il a dit, écoutez, nous, on est contre les signes ostentatoires. On veut pas qu'il y ait de signes ostentatoires des compétitions d'athlétisme, de judo, de toutes les compétitions qui existent. Et on vise directement le voile chez les femmes. Et là, les débats sont partis. La ministre des Sports n'est pas d'accord. Là, on veut savoir qu'est-ce qu'on fait si le sport est télévisé, pas télévisé, juste dans les écoles. Et là, il y a un gros débat actuellement au Sénat en France sur les signes religieux dans le sport. Puis je dis toujours bonne chance parce que quand tu regardes ce qui se passe au soccer avec I love Jesus puis toutes les t-shirts qui se font enlever, les tatouages, les signes de croix, bonne chance. Mais ils sont dans ce débat-là actuellement en France.
Aux États-Unis, le diocèse de Brooklyn est confronté à quoi, Alain?
À des centaines de plaintes pour abus sexuels. On sait qu'une des difficultés, c'est de savoir, bon, qu'est-ce qui se passe? Combien est-ce qu'il y a de plaintes? On ne sait pas. Tu sais, si on demande ici au Québec, dans tout le système judiciaire, combien est-ce qu'il y a de prêtres qui ont été accusés? Peut-être qu'on ne sait pas. Alors, le cabinet d'avocat Jeff Anderson, aux États-Unis, a décidé de le faire, lui, pour l'État de New York. Et il est arrivé que pour l'ensemble de l'État de New York, il y a eu 2800 plaintes de déposées. Là, on parle de plaintes devant les tribunaux. Ouais. Dont à Brooklyn, juste à Brooklyn, t'en as 571. Ça vise 230 membres du clergé. C'est immense. Mais ça, c'est pas l'Église qui a décidé de faire ça. C'est pas le système judiciaire. C'est un cabinet d'avocats qui a dit, nous, on le fait. Pourquoi? On veut permettre aux gens de pouvoir, puis écoute ça, Benoît, trouver ils vont classer les auteurs d'agressions sexuelles par ordre alphabétique. C'est-à-dire que toi, tu te souviens du père un tel ou du frère un tel, faut taper son nom, bang, tu vas l'avoir. C'est vraiment tout un travail qu'ils ont fait. Ils l'ont rendu public. Et d'après moi, les victimes vont peut-être appeler. Il y a toujours pas en guise sur roche, mais les victimes vont appeler. Ils vont dire, écoute, si vous êtes une victime, voulez-vous qu'on vous représente? Ça, c'est certain. Mais c'est tout un travail qui a été fait. Et on pense qu'il y a à peu près 2800 plaintes de déposer juste dans l'État de New York.
À Trois-Rivières?
Oui, à Trois-Rivières, il y a le sanctuaire de Notre-Dame-du-Cap, qui est une basilique qui est à Trois-Rivières. Et le gouvernement a décidé de consacrer 15,6 millions pour sa rénovation et des agrandissements. C'est un projet qui totalise environ 40 millions. Ça, il y a à peu près 400 000 visiteurs qui vont annuellement. Mais ce qu'on oublie de ce sanctuaire-là, c'est que ça date, Benoît. Ça a commencé la construction de la première chapelle 1694. Tu as des vestiges de 1694-1717. Et évidemment, la grande basilique qu'on voit souvent, elle est plus récente, des années 1950. Mais il y a tous ces vestiges-là qui sont là. C'est un sanctuaire, bon, qui existe depuis longtemps. Et je pense que c'est, il faut pas critiquer le gouvernement en consacrant autant d'argent parce qu'il faut toujours se rappeler, tu as une base de notre histoire qui est là. Hey, 1694, c'est au début de la colonie, ça.
Ouais. Je savais que le prince Philippe était un prince, une mari de la reine, mais je savais pas qu'il était un dieu.
Oui, il y a une tribu dans les îles polynésiennes, les îles du Pacifique, qu'ils considèrent comme un dieu. Parce qu'ils disent que notre dieu est parti un moment donné, et on pense que le prince Philippe, c'est le fils de notre dieu. Et il est immortel et il va revenir chez nous. Et cette tribu-là est allée rencontrer le prince Philippe en 2007 en Angleterre. On a fait une émission de télévision à ce moment-là qui était Meet the Natives. Ils l'ont rencontré et pour eux, c'est leur dieu. Et ils s'attendent qu'il soit immortel et qu'un jour, il va revenir sur cette île-là.
Bon, ben ils vont attendre longtemps, je pense, mais ça, c'est leur affaire. Au Brésil... Oui.
Au Brésil, ben là, tu sais que bon, on sait que le fameux Christ Rédempteur à Rio de Janeiro, là, qui fait 38 mètres de haut, eh bien, il y a une autre ville, à la ville d'Encantanto, qui a dit, ben nous, on va en faire un qui va être encore plus gros. Mon crucifix, mon Jésus, va être plus gros que le tien.
Ah, oui.
Celui à Rio est à 38 mètres de haut, il y a 90 ans, il était fait dans les années 30, puis on va recommencer à le restaurer. Là, il va avoir 43 mètres de haut. En plus, il va y avoir des ascenseurs intérieurs, puis il va y avoir un belvédère en haut. Fait que Jésus va servir de belvédère. Et ça va aider pour transmettre la foi, d'après moi, mais ça va surtout attirer des touristes.
Ben, c'est sympathique. C'est... Ben oui, puis il génère des revenus, puis oui. de la job, puis les gens sont contents.
Et aucun argent public.
Ah bon.
Ça, c'est important.
Ouais, envoie la nouvelle à Stephen Bronfman, voir.
Oui, je sais pas. Ben, il faudrait qu'il fasse un grand Christ de 43. Puis, ben, peut-être 44.
Surveille ton langage.
Le nôtre est plus... Non, un grand Christ, le Christ rédempteur.
Ah, le Christ, OK. Christ...
Pas oui, dans le Christ. Sens, le Christ rédempteur. Okay. Pour qui il faudrait qu'il y ait au moins 44 mètres de haut pour dépasser celui dans le
Christ. Oui, je comprends. En Suède, Alain?
Oui, en Suède, c'est la nouvelle. La fameuse momie de Peder Winstrup, qui était un évêque luthérien, qui est mort en 1679 et qui, par la, comment on dit, la magie d'un climat sec, il est devenu, bon, on a toujours conservé son corps. Eh bien, là, il s'est momifié, mais on a remarqué en 2005, parce qu'on a passé des scans, qu'il y avait un fœtus à ses pieds.
Ouais.
Oui, qui avait 5 ou 6 mois, et on s'est toujours posé la question. Donc, le fœtus est là depuis 1679 jusqu'à 2015. Il est toujours là. Et là, on a été capable de faire un test d'ADN. Et finalement, il y a un lien de parenté. Il y a 25% du matériel génétique de Peder Winstrup qui est dans cette dans le corps de ce fœtus-là.
Mais
on pense que c'est son petit-fils.
Mais puis il avait le droit de se marier à l'époque?
Ben oui, c'est un évêque luthérien.
Ah, ben oui.
Luthérien a le droit de se marier.
Ben, on sait bien.
Donc, il y avait eu un fils, mais c'est son petit-fils. On pense qu'il aurait eu une fausse couche et on l'a enterré avec son grand-père.
Ah. Bon, ben très bien. Merci pour ces nouvelles religieuses. Ça va du prince Philippe qui était un dieu, finalement, puis le grand Christ au Brésil qui va créer de la job.